Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'AB2S émission, toujours en partenariat avec isnews.fr, le média qui donne la parole aux invisibles. Au programme cette saison, des parcours toujours plus atypiques les uns que les autres. La formule reste la même, un invité, un tête-à-tête, de la confidence, des émotions, des rires, beaucoup de rires, parfois des larmes, mais surtout beaucoup d'apprentissage. AB2S saison 3, épisode 3, c'est maintenant.
Donc la morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien.
Pour cet épisode avec moi, si votre vie manque de rire, c'est vers lui qu'il faut se tourner. De Loulou à Awa, de l'ancien au fou du bus, de Nasser à Gabriel dans Foot de rue, chacune de ses imitations est iconique. Avec lui, tous les sujets sont tournés sous le prisme du second degré et rigoler devient une thérapie. Si vous le connaissez pas à travers ses imitations, vous le connaissez à travers son fameux manteau noir. Si c'est pas le cas, c'est à travers ses outfits qu'il porte comme personne. Si c'est pas le cas, c'est à travers son fauteuil rouge qui déteint sur le sol ou à travers son très bien. Et si c'est toujours pas le cas, vous avez 52 minutes pour le connaître. Ousmane Dramé dit Ous et mon invité, comment ça va Ous?
Ça va et toi, tu vas bien?
Ça se passe?
Ça va, super.
Il fait tôt là le matin, on enregistre moi le matin, ça va, tu t'es bien réveillé?
Non, ça va, je suis bien, je suis en forme.
T'as l'habitude.
J'ai l'habitude.
Ce que j'ai l'habitude de faire, Ousmane, avec mes invités, c'est une fiche d'identité, okay, pour qu'on te connaisse un peu mieux. J'ai plusieurs questions, il faudra y répondre. Est-ce que c'est bon pour toi?
C'est parfait.
Bah, on passe à la fiche d'identité. Alors Ousmane, toi t'es la fiche d'identité numéro 141-069-18, nom, prénom ou pseudo?
Bah mon nom c'est Dramé, mon prénom c'est Ousmane et mon pseudo c'est Ous.
Date de naissance?
12-04-2003.
Lieu de naissance?
Paris 10e.
Profession?
Moi je me considère acteur et réalisateur et créateur de contenu. Hein.
Passion, hobby?
Passion, foot et cinéma. Hobby, pas vraiment d'hobby. Hein.
Humoriste préféré?
Thomas Gijol.
Acteur préféré?
Omar Sy.
Lieu de résidence?
Saint-Denis.
Réseaux sociaux?
Mon Instagram c'est OusDRM et mon TikTok c'est Ous et toi.
Où c'est toi? Bah, de toute façon, c'est connu, ouais. Hein, TikTok, plus de 300 000 abonnés, félicitations.
Merci, c'est gentil.
Sur Insta aussi, on est pas mal.
Si ouais, sur Insta, ça va. Ça
tu, tu regardes un peu le nombre d'abonnés, l'évolution, ou tu fais pas du tout attention à tout ça, toi?
Au début, je faisais attention, mais là, je fais vraiment pas attention pour le coup. Ouais,
c'est comme l'argent quand on en a trop, ça.
Si seulement on pouvait avoir beaucoup d'argent.
on te le souhaite en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? Comment ça se passe? Dis-nous tout.
Bah, moi, j'ai eu une enfance cool, hein. J'ai eu des... Bah, comme tout le monde, j'ai eu des bons moments. Ma famille, bah, je suis proche de ma famille. Et voilà, quoi.
T'as des frères et sœurs?
Ouais.
Comment ça se passe avec eux?
Bah, moi, je suis le fou. Hein. Je suis le petit fou de chez moi, ça
t'es,
veut
t'es
dire...
T'es l'aîné ou le... Non, je suis dans la hiérarchie, t'es...
Le troisième.
Ok.
Tu vois. Et je suis vraiment le relou de chez moi.
C'est-à-dire le relou des taillés?
J'aime bien les titiller. Ça veut dire que je peux rentrer dans la chambre de mon frère. Il est au téléphone, je crie, mais pour le rendre ouf. Hein. Et voilà, quand même, ma mère ou mon père, je suis vraiment le mec qui est en ouf. Je suis le fou de chez moi. Tu
vois. Le fou du bus, le fou de chez lui. vous êtes combien en tout?
On est 5.
Et ça se passe bien avec tout le monde?
Ouais, c'est, tout le monde.
Tout le monde voit un peu ton évolution, ils en pensent quoi? Qu'est-ce,
bah,
qu'est-ce
ils
qu'ils
sont fiers. Hein. Franchement, ils sont fiers de ouf, ils m'encouragent de ouf. Et moi, ça me fait plaisir.
Il y a que toi dans le cinéma?
Enfin, ouais,
dans le cinéma,
y a que moi, acting, bah, qui est exposé, il n'y a que moi qui est exposé. Après, ils sont okay. Vraiment très réservés dans ma famille.
Et avec tes parents, comment ça se passe? On sait que j'ai reçu pas mal d'invités. T'es, si je ne dis pas de bêtises, t'es West-Af.
C'est ça.
T'es d'Afrique de l'Ouest.
Sénégalais.
Sénégalais, exactement. On sait qu'il y a cette pudeur au niveau des sentiments. C'est pas facile souvent de dire à ses parents qu'on les aime, vice-versa. Comment toi, ça se passe à ce niveau-là avec eux?
Moi, j'arrive à dire je t'aime à ma mère. Hein.
C'est facile.
Avant. J'avais un peu de mal, mais...
C'est quoi le déclic? Comment on arrive à dire je t'aime? Ça, c'est intéressant comme question, parce que j'ai reçu pas mal d'invités qui m'expliquaient que c'est compliqué. Surtout quand on est d'Afrique de l'Ouest, il y a Boutal notamment qui m'en parlait. À quel moment il y a eu le déclic? Parce que tu dis avant c'était compliqué. C'est à quel moment que ça a basculé?
Bah parce qu'en soi, nos parents ils savent qu'on les aime. Et moi un jour, je tombe sur une vidéo et un mec il dit en gros, dites je t'aime à vos parents, ça vous coûte rien. Même si, en gros, je suis un mec, je suis un peu gêné et tout, tu vois, dans la vie de tous les jours. Mais je peux pas être gêné avec mes parents. Tu vois, ça veut dire, j'ai commencé à dire je t'aime à ma mère et ça lui fait plaisir. Mon père, par contre, je dis pas trop je t'aime, tu vois.
C'est un peu plus compliqué.
Ouais, mais il sait que j'aime, tu vois.
C'est quoi que tu retiens de l'éducation de tes parents? C'est quelles valeurs qui t'ont transmises quand t'étais petit que tu retiens aujourd'hui? La semaine dernière, je recevais Jenny Ateka qui m'expliquait quel c'était le travail. Ses parents, c'était des gros travailleurs, des acharnés de travail. Il y a son père qui se faisait remarquer, si je ne dis pas de bêtises, par le silence. C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, il savait quoi dire. Toi, c'est quoi les valeurs que t'ont transmises tes parents, que tu retiens? Et c'est par quel caractère qu'ils ont qui t'ont marqué aujourd'hui?
Bah, moi, c'est le travail. Hein. Pareil. Le travail sans broncher. Et tu sais, moi, mes parents, ils sont calmes de ouf. Et moi, justement, je suis un mec turbulent à mort. Ça veut dire, des fois, ils se disent, mais c'est qu'est-ce que tu... c'est pas possible. Et bah, être humble, hein. C'est vraiment, ils m'ont inculqué le fait d'être humble, que ça peut aller vite comme ça peut redescendre très vite, quoi.
Quand t'es petit, ça se passe comment en élémentaire? Il est comment Ousmane à l'école?
Moi, je suis un bon élève. J'ai toujours eu des bonnes notes.
Tu travailles bien?
Ouais, je travaille bien. Je suis, comme je t'ai dit... Je suis l'élève qui fait rire la classe, mais qui sait travailler aussi, tu vois. J'ai toujours eu des bonnes notes.
Ouais, toi, t'es le poison de la classe, en fait. T'entraînes, tu fais rire les autres qui travaillent pas trop. Alors, toi, derrière, tu fais ton petit chemin quand même. T'as les bonnes... J'ai capté. J'en ai eu pas mal dans ma scolarité. Il y a ceux qui arrivent à faire rire les autres.
On finit toujours par s'en sortir, tu vois. Un vrai blagueur, il finit par s'en sortir, quoi qu'il arrive.
Okay.
Et j'ai eu, pour le coup, de bonnes notes. Hein. Franchement, mes parents, ils ont toujours été fiers de moi. À l'école et voilà quoi.
Tu retiens quoi de l'élémentaire? C'est quoi qui t'a marqué? Si je te pose cette question, c'est parce que j'ai eu pas mal d'invités qui me parlaient et tu t'en rends compte en parlant avec les gens que finalement les milieux sont variés et différents. Il y en a qui retiennent la mixité à l'école parce qu'ils ont grandi en banlieue, c'est peut-être plus facile. Il y en a d'autres qui ont retenu le racisme parce qu'ils ont grandi dans des banlieues où il n'y avait pas forcément de mixité. Toi, c'est quoi que tu retiens de l'école? Est-ce que c'était déjà une école mixte? Est-ce qu'il y avait des gens de toute origine, de toute religion?
Ouais, moi c'était une école mixte hein, pour le coup. Il y avait, comme tu as dit, il y avait des personnes de toute religion, de toute ethnie et il n'y avait pas de racisme. Hein.
Pas du tout.
Pas du tout. Moi, je te dis la vérité, le racisme, je l'ai connu à la télé.
Ok, bon, on en reparlera, c'est intéressant, on en reparlera un peu plus tard. Comment toi, tu te sentais à l'école quand tu y allais le matin? Est-ce qu'on est content d'aller à l'école quand on s'appelle Ousmane en élémentaire?
Ouais, moi j'étais content. Hein.
Mais c'est normal, t'allais faire rire. Pourquoi je pose
la question? En plus, moi, à 8h du matin, je pouvais commencer à... Les gens, ils viennent à l'école, ils sont quand 8h du matin, je parle et tout.
Faut hyperactif un peu, non?
Ouais, de ouf.
Ton élémentaire, c'est à Auguste Rodin, je dis pas de bêtises. Exactement. Élément perturbateur, mais très bon élève. C'est ce que tu dis dans ton court-métrage, on y reviendra aussi. Mm. Le collège ensuite, c'est à Federico Garcia Lorca.
C'est ça.
Alors, meilleur moment de ta vie, c'est ce que tu dis dans le court-métrage. Élève qui faisait rire toute la classe, brevet obtenu facilement, mais en trichant.
Ah, tu peux. En mathématiques. Allez, moi, c'est chaud.
Ouais, les maths, c'est très...
Ah, c'est chaud.
Les maths, c'est vraiment chaud. Comment ça se passe, le collège? Avant qu'on en arrive à la partie du brevet, 6e, 5e, 4e, comment ça se passe?
Bah, franchement, moi, c'était cool. Hein. J'étais dans la même classe que mes potes, avec qui je faisais du sport. Et c'était franchement des super moments, tu vois. Et
t'as jamais eu d'exclusion, d'avertissement, de choses? Est-ce que dans le comportement, t'es un élève un peu difficile ou pas du tout?
Non, après, moi, j'étais gentil, tu vois. Je suis vraiment une personne gentille. Et je me remets vite en question, tu vois. Si un prof, j'ai dû faire un truc déplacé sans me rendre compte, sur le moment, bah, je pouvais attendre la fin des cours et aller m'excuser. Tu vois, j'essaie vraiment pas d'être méchant, loin de là.
Et quand tu sors de l'école, ça se passe comment? Sors du collège, c'est quoi les activités d'Ousmane?
Quand je sors du collège, on joue au foot hein, avec mes potes.
Il y a une volonté de percer ou pas du tout? On sait que c'est la volonté de beaucoup de jeunes quand on joue au foot. Après, on se rend vite compte que c'est pas si facile que ça.
En vrai, moi, le foot, en fait, j'aimais le foot, mais je voulais pas en faire mon métier. Okay, mais tu ça, tu t'en rends pas compte. Tu vois, c'est une passion, mais en faire son métier, c'est différent. Et okay. Moi, j'aimais bien jouer au foot avec mes potes et tout. Hein. Jouer à la PlayStation un peu, aller à la médiathèque, jouer sur les ordinateurs. Et voilà quoi.
Et ça se passe comment la vie dans le quartier?
Bah, pareil. Moi, franchement.
T'es dans les bêtises, pas dans les bêtises? T'es dans quel groupe? Est-ce que t'appartiens à un groupe?
Non, moi je suis toujours avec les mêmes amis d'enfance. Il y en a qui sont dans le foot, dans les courts-métrages aussi, dans la mode. Et franchement, je suis pas un élève. Je suis pas une personne qui fait des bêtises, tu vois.
Okay.
J'essaie vraiment d'être droit dans mes baskets.
C'est important d'être droit. Et comment on fait pour rester droit? C'est une question que j'avais déjà posée, je me rappelle plus à quel invité. Je crois que c'était à Max Gomis, si je dis pas de bêtises, mais à qui j'avais demandé comment on fait pour ne pas dévier en fait.
Bah, c'est grâce à mes parents aussi. Tu vois, ils étaient. Par contre, non, mes parents, ils étaient durs. Okay. Tu vois, une seule bêtise, ils me recadraient directement. Et après, moi, je suis quelqu'un d'observateur. Vraiment. Tu vois, il y a des parcours que. Il y a des personnes que j'observe. Je me dis, en vrai. Je ne veux pas que je reste avec cette personne, ça peut m'apporter de mauvaises choses. Et voilà, après j'ai fini par rester avec les mêmes. Et ça s'est toujours bien passé. Hein.
Ouais, tant mieux. Troisième, il y a le brevet des collèges. Il y a une appréhension quand tu vas passer le brevet ou tu es quelqu'un d'assez sûr de toi, tu sais que tu vas l'avoir?
Ah, moi, je suis vraiment une personne... Moi, je suis sûr, en fait, je suis sûr de moi, mais je doute. Okay. Tu vois, j'ai cette petite part de doute, mais je suis une personne très sûre de moi, tu vois. En gros, je dirais pas buté dans ma tête, mais ça passe ou ça casse.
Ok.
Et le brevet, je l'ai eu. Hein.
Combien, mention, pas mention?
Non, je l'ai pas eu en mention. C'est le bac que j'ai eu en mention.
Ok. En troisième, on sait qu'il y a le choix, et là on est un peu de la même génération, du coup on se comprendra un peu plus, il y a le choix de l'orientation à la fin de l'année. C'est général, pro, etc. Toi, tu fais quel choix et comment tu décides de faire ce choix? Est-ce que c'est un choix qui t'est imposé ou c'est quelque chose que tu décides?
En troisième, je savais pas ce que je voulais faire. Pour moi, c'est trop tôt de choisir ce que tu veux faire en troisième. Pour ma part à moi, tu vois. Donc en vrai, j'ai choisi d'aller en général. J'avais les capacités pour aller en général. Donc je me suis dit, je vais en général. Si ça me plaît pas, bah, l'année qui suit, je vais en pro. Donc au final, je suis allé en général. Et ça me plaisait vraiment pas. Donc après, de là, je suis allé en gestion administration, en pro. Et j'ai kiffé. Hein.
Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu dis. Il y a d'abord le fait qu'on n'est pas assez mature pour choisir ce qu'on veut faire à la sortie de la troisième. Pareil, tu n'es pas le premier invité qui me le dit. Comment t'expliques ça? C'est à quel niveau qu'on n'est pas prêt?
Bah parce que après, tu connais pas tous les métiers. Tu vois? Tu te bases que sur les métiers de tes parents ou les parents de tes potes, mais ça ne te parle pas. Mais tu te bases que sur ces métiers. Donc tu te dis, mais moi je ne veux pas faire ça. Je suis obligé de faire un truc qu'on m'impose en soi. Tu vois? Et au final, t'es obligé de passer par là. T'es obligé d'aller au lycée, donc tu dois choisir une filière qui te ressemble. Pas qui te ressemble, mais où tu es plus susceptible d'accepter, tu vois.
Ensuite, tu parles de la générale, ça t'a pas plu. C'est quoi qui te plaisait pas dedans?
Pour le coup, après moi, t'as vu, je vais te dire la vérité, les devoirs à la maison, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour moi. Mais en cours, je suis grave actif, je participe de ouf. Et en général, en vrai, beaucoup de taf à la maison, tu vois. Et moi, j'ai pris une mauvaise habitude depuis le collège. Après, en gros, moi, je faisais quoi, moi? Une heure avant le cours. Ouais, ceux qui ont fait leur devoir, là, si vous pouvez m'envoyer leur réponse. Bam, bam. Et après, vas-y, ça passait, tu vois. Et j'avais pas cette habitude-là de faire mes devoirs à la maison. Donc, sinon, j'avais de bonnes notes. Hein.
Mais sans faire les devoirs.
Ouais, sans faire les devoirs, j'avais de très bonnes notes. Mais Je savais que si j'allais aller dans ce chemin-là, bah au final, j'allais regretter, tu vois. Je pense pas. Je pense que j'aurais pu avoir mon bac, mais je serais pas...
T'aurais pas été satisfait.
C'est ça, tu vois.
Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on le vit comme un échec? Et si toi, tu le vis pas comme un échec, est-ce que tes proches autour de toi, ils vivent comme un échec le fait que tu quittes la générale pour le pro quand on sait l'image qui est donnée autour des lycées professionnels?
Moi, ils vivent pas comme un échec, tu vois. Ma mère, elle me conseille, mais elle me laisse avoir le dernier mot. Okay. Parce qu'après, là, c'est différent. J'ai 16 ans, 17 ans. Ils ont la main sur moi, mais je peux avoir le dernier mot.
Il y a une discussion avant de choisir le...
Ouais.
Le lycée pro ? Ouais, vous discutez de quoi ? C'est quoi qui se dit ?
Bah moi, moi, après, ma mère, je lui dis tout, tu vois. C'est pas comme mon père. Je parle plus avec ma mère qu'avec mon père, tu vois. Et je lui dis qu'en gros, ça me plaît pas du tout. Du tout. Et que j'ai envie d'aller en pro. Elle me disait, mais non, en gros, essaye. Je veux dire la vérité, j'ai essayé une année. Si je continue là, c'est pas sûr que j'ai mon bac. Je pourrais l'avoir si je me donne à fond et que bah, je change pas mon train de vie, mais ma manière de faire. Mais à ce moment-là, j'avais pas ce truc dans ma tête qui me faisait comprendre que je pouvais tout changer, tu vois. Et elle l'a bien pris, hein, puisqu'au final, j'ai eu mon bac et voilà quoi.
Ça se passe comment? Tu fais 2 années du coup en gestion administration,
c'est ça, ouais.
Tu fais la première et la terminale.
C'est ça.
Ça se passe comment?
Ça se passe bien, j'ai de bonnes notes, je fais mes stages, j'apprends. Après moi, j'apprends vite, donc j'étais pas déstabilisé, hein, tu vois.
Et à ce moment-là, tu le dis, en troisième, on est trop jeune pour savoir ce qu'on veut faire. Est-ce que quand on sort du lycée, on sait ce qu'on veut faire?
Non.
Toujours pas?
Toujours pas.
Comment tu l'expliques, ça?
Bah...
Parce que en plus, t'étais dans une... Enfin, les lycées pro, pour ceux qui savent pas, c'est des filières qui forment, du coup, et qui font que t'es prêt à rentrer dans le monde du travail, soit après le bac, soit en poursuivant en BTS. Pourquoi... Enfin, toi, tu voulais pas être en gestion administration? C'est quelque chose qui...
Après, moi, j'ai toujours voulu travailler dans les mairies,
okay.
Tu vois. J'aime bien être au contact des personnes, rendre servible. Moi, rendre service, j'aime être serviable.
Ok.
Tu vois. Mais de faire toute ma vie, je pense pas que je
peux le faire. Ouais, c'est un truc...
Tu vois. Et bah, en faisant mes stages, j'ai vite compris que j'aime un tout petit peu ce monde-là, mais je peux pas en faire mon métier toute ma vie. Tu vois.
On le disait, on te reçoit surtout en qualité d'humoriste, acteur. C'est à quel moment, à quelle période de ta vie que se déclenche cette passion pour le cinéma, l'acting, l'humour?
Tu sais, moi, depuis que je suis petit, j'aime les cinémas. Vraiment, grâce à mon père. Parce que mon père, il regarde énormément de films. Et au salon, bah, je regardais tout le temps des films avec lui. Tu vois, même les dimanches, il y a toujours des bons films sur TF1. Donc, je regardais ces films avec mon père. Mais depuis que je suis petit, j'ai aimé le cinéma. Mais dans ma tête, je ne me disais pas que je pouvais en faire mon métier ou que c'est un métier. Je le voyais vraiment comme une passion, mais une passion lointaine, tu vois. Et bah, c'est quand, en 2018, je fais la vie scolaire, je me rends compte que, ah ouais, en vrai, c'est un métier, tu vois. Ça peut être une passion, mais c'est un métier.
Et comment tu te retrouves dans la vie scolaire? Comment ça se passe, la vie scolaire? On le rappelle, ouais, qui est un film français sorti en 2018 ou
19,
il sort en 19.
C'est ça.
Réalisé en 2018, il sort en 2019. C'est dans un lycée, collège.
Collège, bah c'est mon collège, Garcia
Lorca. Ouais. Ok, c'est dans un collège de banlieue et ça raconte un peu, très très bon film. D'ailleurs, on en parlait un peu en off. Tu me disais que ça a pas pris l'ampleur que ça devait prendre à cause du Covid.
Ouais. Qui a vraiment, il a bien pris le film. Ouais.
Mais c'est un film qui a très très bien marché. Comment tu te retrouves, toi, dans la vie scolaire?
Je me retrouve dans la vie scolaire grâce à ma prof de français. Parce que, le directeur de casting, il vient passer des castings dans notre collège. Et bah de là, moi, pour te rappeler, j'avais passé un casting en primaire. Mais j'avais pas été pris. Un petit coup sur le moral. Et là, je me dis, en vrai, le cinéma, c'est pas pour moi. Tu vois, laisse. Donc depuis, j'avais, entre guillemets, éloigné ce rêve de ma tête. Et de là, bah, il y a un casting. Mon prof, il me dit, va le faire. Moi, je suis pas trop chaud. Mais après, il me dit, va, en gros, t'as rien à perdre. Et je suis allé, et le directeur du casting, bah, il a kiffé. Et les jours qui suivent, bah, je suis parti voir les réalisateurs. Et de là, bah, ça a matché direct et on a tourné, quoi.
Et comment ça se passe quand on rentre dans ce monde-là? C'est quoi la... Quand tu rentres dans... C'est quoi ta première réaction? Quand tu arrives sur ton premier jour de tournage, comme pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais fait de tournage, comme moi, par exemple, c'est quoi, en fait? Ça se passe comment? C'est quoi le délire?
Déjà, on s'occupe bien de toi. Comment dire ça? Là, je vais te donner un détail. Tu vois, moi, je suis un mec... je sais pas si c'est mon humilité, mais disons qu'à un moment, il pleuvait un peu, ou il y avait grave du soleil, et il y a une personne qui me tient un parapluie. Et moi, j'avais rien dans mes mains. Et de là, je lui dis, non, en vrai, donne-moi le parapluie. Et toi, il me dit, non, mais en gros, c'est son taf. Mais moi, j'arrivais pas à me dire que son taf, c'est de tenir... En gros, elle fait plein de choses, mais en gros, elle me tenait le parapluie. Et moi, ça me gênait. Tu vois, je me sentais gêné en soi. Et la personne m'a fait comprendre que tu peux pas être gêné. En gros, grâce à ça, j'arrive à nourrir mes enfants. Tu t'imagines, si tu me l'enlèves, ce taf, comment je vais faire? Et ça, j'ai pas cette réflexion-là, moi, sur le moment. Et franchement, j'ai rencontré que des bonnes personnes. C'était un super moment. Et voilà, quoi.
C'était en 2018, c'est en 2003. Ça fait, t'as 15 ans à ce moment-là, ouais, 15-16 peut-être. C'est une dinguerie, il y a quelqu'un qui tient ton parapluie.
Ouais. Et même, on te maquille, on te met des micros, t'entends le action, silence sur le plateau, c'est dingue. Truc, ouais.
Et est-ce que quand on sort de ça, on se dit, ouais, c'est vraiment ce que je veux faire? Ou on se dit, c'était une expérience sympa, maintenant je retourne à ma vie?
Bah, je pense que c'est ce film-là qui a fait que je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux. C'est vraiment ça.
Il y a un texte à apprendre et tout. Ouais. Toi, ton rôle, c'est une bagarre, enfin, c'est une échauffourée.
Ouais, une altercation entre moi et un pote à moi qui s'appelle Zakaria. Et ouais, c'est ça. Après, on va devant la CPE. Elle nous dit qu'en
gros. Qui est joué par Zita Enro.
C'est ça. Et elle écrit, en gros, elle nous a écrit un mot qu'on devait faire signer par nos parents.
C'est une petite scène. Ouais, c'est une petite scène, c'est ça le truc, c'est une petite scène, mais dans la petite scène, il y a quand même eu le temps de te donner, de te tenir en parapluie, de te maquiller. C'est un monde dingue. Pour ça veut coup. Dire quand tu sors de ça, tu te dis, je veux baigner là-dedans toute ma vie.
C'est ça. C'est ça, ouais, je me dis que, bah, en vrai, je vais en faire mon métier et que pour ça, il faut travailler. Il faut vraiment de la patience pour le coup. Tu vois, c'est un métier où si t'as pas de patience, tu vas arrêter. Hein.
Pourquoi? Explique-nous. Pourquoi c'est important d'avoir de la patience dans ce métier-là pour les jeunes qui nous regardent et qui veulent faire du cinéma?
Parce qu'il y a beaucoup de refus, déjà. Tu vois, ça, on n'en parle pas, on ne le montre pas, mais il y a beaucoup de casting où tu n'es pas pris. Tu vois? Et si tu t'arrêtes aux fois où tu n'es pas pris et tu te dis, en vrai, laisse tomber, ils vont venir à moi, c'est faux, déjà. Faut pas être statique. Tu vois, faut toujours être en mouvement, essayer de faire quelque chose. Par exemple, tu vois, moi, j'ai commencé par avoir un rôle. Mais ça me dérange pas d'être figurant, d'être silhouette parlante. Parce que souvent, tu peux rentrer dans ce délire où tu te dis, j'ai commencé par un rôle. Ah non, je peux pas être figurant. J'ai commencé par la grande porte. Entre guillemets, et pour redescendre un peu plus bas. Alors qu'il ne faut pas se dire ça, c'est bien de savoir de toucher à tout, d'être partout. Et comme ça, ça te rappelle que déjà tu es humble, que tu n'es pas personne, mais tu es comme tout le monde. Et qu'il faut travailler, hein, il n'y a que le travail qui va payer.
Tu le dis, il n'y a que le travail qui paye. Le travail, il va tellement bien payer que tu te retrouves dans des séries la vie scolaire. Tu fais notamment Balthazar sur TF1. Ouais. Pareil, tu as un rôle dedans.
Ouais, j'ai un rôle, mais un petit rôle, tu vois, dans un épisode.
Ok. Et pareil, Engrenage aussi, pareil, c'est le même délire.
Dans un épisode.
Et pareil, comment ça se passe? Comment tu t'es repéré pour ces séries-là? Est-ce que c'est eux qui viennent à toi? Est-ce que c'est toi qui vas à eux? Tu le disais, il faut toquer à beaucoup de portes. Est-ce que c'est toi qui toques à ces portes-là ou c'est ces gens-là qui viennent à toi?
Après, moi, j'ai toujours eu de bonnes relations avec que ce soit directeur de casting ou toutes les personnes du plateau, un plateau de film. Et c'est beaucoup du bouche à oreille.
Ok, du coup, des gens qui parlent de toi.
C'est ça, en gros. J'ai besoin d'un petit mec qui peut jouer une scène. Si tu le connais. Ah oui, j'ai ce mec qui habite pas très loin et ça le dérange pas de jouer la scène. Ok, bah, on m'appelle et tout. T'es prêt et tout, t'es chaud. Moi, toujours partant. Let's go. Et après.
C'est à quel âge quand tu joues dans ces deux-là? La vie scolaire, on le disait, 15 ans.
Ouais.
Balthazar en Crenage, ça arrive en quelle année?
Balthazar, je crois, c'est en 2020.
Ok. Du coup, ça
2020 ou 21. Ouais, 2020. Et je crois que Grenache, c'est 2021.
Ok, ça fait 17-18 ans.
C'est ça.
La question que je vais te poser, on va parler un tout petit peu d'argent, vraiment un tout petit peu. Est-ce que pour la vie scolaire, déjà, tu prends de l'argent ou pas du tout?
Si.
C'est sans rentrer dans les sommes, c'est une belle somme ou c'est...
Bah, c'est une belle somme pour un gars de
15 ans,
16 ans.
Est-ce que c'est une belle somme pour quelqu'un qui est au SMIC, par exemple? Pour ce que tu as fait? C'est combien de tournages?
Pour le coup, moi, j'avais... En gros, je pourrais retoucher cette somme. Actuellement, ça me ferait toujours plaisir.
Ok, du coup, c'est une belle somme.
Ouais. ça me fait plaisir, tu vois.
Voilà. Vous saurez pas c'est combien, mais c'est une belle somme.
Ça m'a fait plaisir, tu vois.
Balthazar en Grenache, pareil.
Ouais.
C'est des belles sommes.
Ouais, après, ça, c'est un peu moins petit, parce que ouais, c'est différent. Tu vois, c'est pas les mêmes cachets, les films et les séries.
Ok.
Tu vois,
c'est déjà important de le dire aux gens.
C'est des cachets différents. Et ça dépend de la prod et tout. Mais sinon, moi, tu sais, je calcule vraiment pas l'argent.
Ok.
Quand je tourne. Si après on touche bien, tant mieux, ouais, mais je calcule vraiment pas l'argent, tu vois. C'est vraiment pas le premier truc que je me dis. Je me dis, d'abord, sois pris, essaye de kiffer le moment que tu vas passer, et l'argent, c'est secondaire.
Ça viendra après, dans tous les cas. Comment tu te retrouves sur TikTok? On le disait, hein, t'es une petite star de TikTok, 300 000 abonnés. Je lisais hier, et j'invite ceux qui nous écoutent à le faire. Hier, je suis parti sur Twitter, barre de recherche, et j'ai tapé Ous TikTok. Et t'as plein de tweets, ouais, Ous c'est vraiment le plus drôle de TikTok. Il y a ton nom qui ressort, avec celui d'Attaching
Boy, ouais.
Qui est très drôle pour le coup. Mais est-ce que ça. Bah, déjà, ça doit faire plaisir d'avoir son nom à côté de ces gens-là.
Bah oui.
Attaching Boy, il y a Paharag aussi qui fait extrêmement rire.
En plus, c'est mes bons gars, eux. Donc, ça, c'est des super personnes. Il y a Mouloud aussi.
Qui fait aussi rire pas mal de gens.
On est dans le même registre un peu.
Mais c'est vrai que toi, ton nom, il ressort pas mal. Comment tu te lances sur TikTok? Déjà, comment tu te retrouves sur TikTok avant qu'on parle de l'explosion, tout ça? Comment tu te retrouves sur TikTok?
Moi, je me retrouve sur TikTok comment? C'est marrant parce que à ce moment-là, je suis en BTS. En BTS GPME, petite moyenne entreprise, gestion de la petite moyenne entreprise, et je suis avec un pote à moi. Et moi, j'avais pas TikTok à ce moment-là. Et je vois lui, il scroll sur TikTok. Et au début, moi, je négligeais TikTok. Je lui dis, mais tu fais quoi sur TikTok, toi, là? Laisse ça. Il me dit, non, t'es un ouf, il y a des personnes drôles et tout. Il me dit, tu devrais essayer. Il me dit ça, je crois, un lundi. Il me dit, tu devrais essayer et tout. Mardi. Il me dit, en vrai, tu peux aller sur TikTok et tout. Mercredi. Semaine prochaine, je prends mon téléphone. Je fais une vidéo. La vidéo, je vois qu'autour de moi, les gens, ils valident et tout. Ah ouais, je suis mort et tout. Je continue. Je continue et... Ça a pris, hein, tu vois.
On est bon. Du coup, tu le disais, ça a pris, ça marche. C'est quoi Est-ce que tu te rappelles de la première vidéo que tu postes sur TikTok?
Ah ouais, je m'en souviens même plus. J'ai dû poster plus de 1000 TikTok, je crois. 1000 vidéos.
Ah, ouais, c'est...
Ça veut dire, je peux même pas m'en souvenir. Waouh, t'as raison. Après, je vais redescendre sur TikTok, je vais aller regarder. Waouh. On m'avait jamais posé cette question-là. Pour le coup, waouh.
Et au début, tu essayes de dire quoi dans tes TikTok? C'est quoi le message que tu veux passer? Parce qu'aujourd'hui, tu es beaucoup dans l'imitation de personnes, ouais, de scènes de la vie quotidienne, de scènes qu'on vit tous les jours. Je pense aussi, c'est pour ça que les gens se retrouvent beaucoup à travers tes TikTok. Parce qu'en plus d'être drôle, c'est des scènes à travers lesquelles, en fait, on se retrouve.
On se ressent, c'est
bah
ça,
oui,
ouais.
Quand tu parles de Gabriel et ouais, Louise, c'est des trucs qu'on a vus, nous.
Dans Faut Rire.
C'est-à-dire, ça nous fait rire, quand même quand tu imites le daron, ouais, c'est des trucs qu'on vit. Quand tu imites des coachs de foot,
c'est-à-dire,
c'est des choses qu'on vit. Pas, le fou du bus, pareil. Pour te dire, hier, j'étais dans le métro, il y avait un fou à côté de moi. Tu vois, c'est-à-dire, c'est des choses... qu'on vit, mais c'était quoi toi ton but? Tu voulais raconter quoi à travers ces TikTok au début en tout cas? La genèse.
Je faisais... Moi j'ai toujours fait de l'humour sur TikTok. Hein. C'est juste qu'après, avant de... pas mettre ma voix, mais c'était plus des playbacks de situation. Okay. Tu vois, en gros, il y avait une personne qui parlait et je mettais la voix et je rajoutais des mots. Ou bah t'aurais pu te sentir concerné par ces mots-là, mais pas des playbacks où je chante. Hein.
t'es que dans l'humour. Et est-ce qu'à ce moment-là on veut faire passer déjà des messages ou l'idée c'est vraiment que de purement faire rire?
Que de faire rire.
L'idée c'est, c'est à quel moment du coup qu'il y a la bascule entre le je veux faire rire et le je sais que ma voix elle porte, donc parce que ma voix elle porte, je veux faire passer des messages.
Ça me vient quand bah après moi, j'ai toujours été une personne qui réfléchit énormément. J'aime bien me cultiver et tout. Et si je peux, comment dire ça, si je peux éveiller les consciences à ma manière, bah je vais le faire. Et je sais qu'il y a des jeunes ou des personnes plus âgées qui me suivent. Et qui se dit, en vrai, ils doivent se dire, bon, j'arrive qu'à faire rire et je réfléchis pas énormément, tu vois. Souvent, on a cette carte du mec, il sait que faire rire, donc il est pas cultivé ou en vrai, il est pas futé, quoi. On peut lui mettre des bananes ou autre, mais loin de là. Et de là, bah, je décide de faire des courts-métrages. Je fais un court-métrage où, comme t'as dit, je parle du premier court-métrage que je fais.
C'est ça, lauréat du concours moteur. Juste avant qu'on arrive au court-métrage, tu disais quelque chose de très très intéressant là, qui a été relevé aussi par Eladj, qui faisait des TikTok, enfin qui fait encore des TikTok, humoriste Eladj, qui avait explosé à l'époque.
Ouais, Eladj, il est trop chaud, Eladj.
Et bon, ça lui fera plaisir. Et Eladj qui disait exactement la même chose que toi, c'est qu'il a l'impression qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus réellement de talent. L'idée, c'est juste de faire de l'absurde, de marquer par l'absurde. Et on ne fait pas passer de message alors que finalement, vous avez un rôle qui est prépondérant parce que vous êtes suivi. Quand tu es suivi par 300 000 personnes, c'est énorme. Ouais. Déjà, être suivi par une personne...
Déjà, c'est dingue.
On est dans un monde où on a banalisé ça par le fait aujourd'hui...
Tu sais, le fait que tu dis ça, moi, je suis une personne qui ne banalise pas du tout.
Bah, tu vois, ça, c'est important. Parce qu'en vrai, nous, on a le fait d'être suivi, on se dit, c'est normal, mais... Il y a 300 000 personnes qui regardent ta vie, qui regardent ce que tu fais, ce que tu dis. Tu influences forcément des jeunes. Il y a des gimmicks qui vont percer. Pour Eladj, c'était Socomo. Pour toi, c'est le très bien, qui fonctionne. Ça veut dire toi, tu sais que tu as ce rôle-là. Et comment tu vis sur TikTok, les, entre guillemets, sans attaquer personne, sans rentrer dans quoi que ce soit, mais les absurdités qu'on peut voir ailleurs?
Bah après, moi, comme je t'ai dit, Je sais que mes parents ils vont tomber sur les vidéos que je fais, ou même mes amis, mais avant tout, pour moi-même.
Okay.
Est-ce que la vidéo que je fais, elle va pas me causer des soucis pour plus tard? Parce que souvent, on a tendance à penser au moment exact. On se dit, bon, vas-y, ça va faire des vues, même si je vais faire des trucs déplacés, ça va faire des vues et basta. Mais faut pas penser comme ça. Il y a des choses, malheureusement, qu'on n'oublie pas. Et ceux qui veulent le faire, je peux rien leur dire, mais si je peux donner un conseil, en tout cas un jeune qui veut se lancer sur les réseaux, ne fais pas une chose que tu vas regretter ou une chose que seulement pour les stats, parce qu'en vrai, c'est je pense que ce que je vais dire, ça va paraître fou. C'est pourri en vrai, les stats. Si t'aimes ce que tu fais, tu t'en fous des stats, tu vois. Tu peux avoir 10 000 abonnés. Moi, à la base, tu sais, quand je viens sur TikTok, je suis dans un délire où mon max que je vais atteindre, c'est 50 000 abonnés. C'est vraiment ça, mon max, 50 000 abonnés et je suis refait. Et bah, au fur et à mesure du temps, ça monte, ça me fait plaisir, mais je m'arrête pas là-dessus, tu vois. Puis je pisse et j'envoie mes vidéos et voilà quoi.
Et tu le disais, hein, ça va plus loin, c'est plus profond. Les messages que tu essayes de véhiculer, eux aussi, sont profonds. Tu as été lauréat du concours moteur. Le thème, c'était ton quartier. Framboisin,
c'est ça.
À Saint-Denis, ce qui, enfin, dans ce que tu dis dans le court métrage, c'est ce qui t'inspire le plus, c'est ton quartier, rendre fier tes amis et ta famille. Et comment te vient l'idée de ce court métrage là comment te vient d'ailleurs comment t'en arrives à être lauréat du concours moteur, comment on s'inscrit pour le concours moteur, enfin,
ok, bah déjà moi le concours, c'est un ami à moi qui me l'a envoyé, qui s'appelle Isma Kebe, et il m'a envoyé le concours sur Instagram. De là, je regarde ce qu'ils font. Il me dit, fais-le. Tu vas kiffer. En gros, ça va être une bonne expérience. Et si bah, t'es pris, bah, c'est... y a de bonnes récompenses. De là, bah, je me dis, bon, je vais essayer. Moi, je suis, par contre, je suis un mec, je passe à l'acte, quoi qu'il arrive.
Okay.
Je me dis, ça passe ou ça casse. Et bah ça passe souvent, tu vois. Il y a aussi des moments où ça passe pas, mais tu vois, c'est, je me donne les moyens avant tout. Et de là, bah je vois, en gros, je vois que dans le concours, on doit parler de ce qui nous inspire. Et moi, automatiquement, j'ai pensé à mes proches, tu vois, à mes proches, à ma famille. Mais je savais pas qui choisir exactement. Et en soi, on vient tous du même quartier. Donc, et c'est ce que j'ai dit, dans n'importe quel quartier, ça leur parle. Tu vois. Et de là, bah, j'ai commencé à écrire ce que je voulais dire. On avait 1 minute 30.
Ouais, c'est ça qui est important de le dire. 1 minute 30, mais 1 minute 30 durant laquelle j'ai écouté ça hier soir. Tu dis beaucoup de choses que j'ai relevées. Il y a notamment ce passage où tu parles de modèle de réussite. C'est pas simple quand on n'a pas de modèle de réussite. Est-ce que toi, tu estimes que quand tu parles de modèle de réussite, c'est dans ton quartier à toi ou de modèle de réussite à l'échelle nationale?
Bah, non, à l'échelle nationale, il y a beaucoup d'acteurs. Noir que...
Ouais, tu en as cité d'ailleurs tout à l'heure comme Omarcy, qui pareil vient de banlieue.
Tu vois, ça inspire énormément, même les plus jeunes, tu vois. Quand je dis les plus jeunes, ils sont plus âgés que moi, mais ça inspire ce qu'ils font, c'est inspirant de ouf. Et quand je te parlais de modèle de réussite, je te parlais plus autour de moi.
Ok.
Tu vois, comme je t'ai dit, dans ma famille, il n'y a que moi qui est sur les réseaux sociaux, il n'y a que moi qui veut être acteur. Et... lorsque tu as modèle de réussite, je dirais pas modèle de réussite, mais quand tu n'as pas une personne dans ce milieu-là, tu n'en sais vraiment rien, mais rien du tout. Tu vois, même juste le fait de tu sais qu'il y a des castings et tout, mais tu n'es pas connecté, comment dire ça, tu n'as pas cette accessibilité au casting, tu vois.
Ok.
Donc,
il y a également, tu parles de se donner les moyens.
Ouais.
C'est important de se donner les moyens. Comment on se donne les moyens? C'est les jeunes qui nous regardent, comment on se donne les moyens?
Que personne va le faire pour nous. Mais c'est vraiment vrai, tu vois. Personne va le faire pour toi. Après, moi, je te dis ça. J'ai pas. Quand je te dis, quand je me dis, faut se donner les moyens, c'est que je suis pas le fils d'un tel ou le frère d'un tel. Donc, je suis obligé de le faire de mes mains, tu vois. Donc faut le faire de ses mains. Personne va venir t'aider. C'est malheureux, hein. C'est pas malheureux en vrai. Moi je suis pour moi c'est normal, tu vois. Je force personne à m'aider ou à me partager, mais ça fait plaisir, hein. Mais en gros je ne force personne. Si cette personne elle doit me partager, c'est parce que elle a aimé ce que j'ai fait, tu vois. On va pas mendier quoi que ce soit. Et ça m'a forgé. J'ai jamais été un mec qui demande. Tu vois, j'ai toujours été ce mec qui se débrouille, quoi qu'il arrive. Et ça m'a forgé et c'est quelque chose de qui est en moi. Donc, voilà quoi.
Le concours moteur, il va t'apporter pas mal de réussite. Tu vas notamment faire ton premier JT France 3, c'est quand ça. Même beau. Ouais, 19-20, France 3, c'est quand même beau. Tu vas également monter les marches de Cannes. Comment on vit tout ça en quelques mots? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans ta tête à ce moment-là? Et c'est quoi la réaction des parents?
Bah, moi, mes parents, hyper fiers. Hyper fiers. Je leur ai envoyé les vidéos, ils ont envoyé dans tous les groupes WhatsApp.
le fameux groupe WhatsApp des darons.
Tous les groupes WhatsApp, laisse tomber. Et même pour moi, c'était les marches de Cannes. Pour un acteur, c'est un rêve incroyable. De gosse. Pour le coup, c'est vraiment un rêve de gosse. Je ne sais même pas si je vais les remonter dans ma vie, mais le fait j'espère. Mais le fait que je les ai fait à cet âge-là, c'est incroyable pour moi. Et France 3 aussi, c'est lourd, parce que j'avais jamais fait avant ça d'émission télé, et en plus pour le JT de 20h.
Ouais, c'est...
Ça veut dire... Et moi, chez moi, mes parents, ils sont... Ça les arrive de regarder France 3 ou France 2, tu vois. Et ça les a fait plaisir. Et moi, quand mes proches sont fiers, je suis le plus heureux, tu vois. Vraiment.
Tu le disais, ton objectif, c'est de conscientiser. Conscientiser, tu le fais aussi à travers des séries de courts-métrages. Il y a notamment le court-métrage Lyrix, qui lui est sorti en mai 2024. Et moi, ce que j'ai remarqué dans tes courts-métrages, c'est qu'à la fin, il y a toujours un mot. Dans Lyrix, tu parles bien évidemment d'Lyrix. Tu tiens le rôle principal avec Tariq Hamidi et Aziz Diabaté. Ouais. Le message de fin, c'est soyons fiers de là où nous venons et représentons nos quartiers autrement que par des faits divers dramatiques. Du sang coule, des mères en pleurs, tout un bâtiment en deuil. Pour des histoires dont les raisons nous sont inconnues, menons les vrais combats au sein de cette société et arrêtons de nous entretuer. Nos immeubles sont remplis de talent et de détermination, donc baissons les armes et mélangeons nos créativités pour rendre visible aux yeux de tous que la banlieue influence la capitale et la capitale influence le monde. Comment, parce que tu restes jeune quand même, 22 ans c'est plus trop jeune dans la société d'aujourd'hui aussi. C'est vrai que les petits entre guillemets de 20-21 ans maintenant ils sont super matures de par tout ce qu'on voit dans le monde. Mais comment à cet âge-là, on arrive à faire passer ce genre de message? Ça te vient d'où? Et pourquoi c'était important pour toi notamment de parler de ça, d'Eryx?
Parce que c'est un truc que je vois. Je vois. C'est un truc que je vois, qu'il y a partout. Je viens d'un quartier. Souvent, il y a d'Eryx. C'est malheureux. C'est bête, moi, pour moi, Lyrix. C'est vraiment quelque chose que je trouve bête. Et je me devais de parler de ça, tu vois. Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui sont dans Lyrix qui voient mes vidéos. Si je peux faire cette vidéo et qui réussit à bien... Et le jeune qui voit cette vidéo, il reçoit bien le message. Et il se dit, en vrai, il a raison. C'est pourri Lyrix. Hein. Et je serais content, moi, tu vois.
Et qu'est-ce qu'on dit aux jeunes? Comment on dit aux jeunes d'arrêter Lyrix? C'est quoi le... Comment on explique en tout cas à un jeune qu'il ne faut pas faire de Lyrix?
Bah que... Je sais pas, mais c'est un coup dans la cité adverse. Il y a un mec avec qui tu peux faire... Vous pouvez entamer un projet et ça change votre vie. Mais toi, tu te fermes déjà les portes. En vous tapant dessus, vous fermez les portes. Tu vois? Et dis-toi que tu vas plus perdre de temps que toute autre chose. Hein. Tu vas perdre du temps et tu vas te blesser. Et ça sert à rien.
Il y a le court-métrage qui vient après, c'est Les Notes de l'Incompris. Et dans celui-là, tu parles de rêves. Alors, le message de fin, il est très court, clair, net et précis. Croyez en vos rêves. Alors en gros, moi, j'ai regardé hier, t'es pianiste. Dans la vraie vie, tu sais faire du piano?
Non.
Pas du tout.
Pas du tout. C'est un pote à moi, Tariq, qui sait faire du piano. Et il m'a appris un peu quelques notes, tu vois.
Okay.
Vite fait. Mais sinon, c'est lui qui sait vraiment faire du piano.
C'est très ressemblant. Du coup, t'as un jeune qui fait du piano. Ouais. C'est Aziz Diabaté, encore une fois, qui, pareil, te donne la réplique, qui vient à ta fenêtre et qui se moque un peu de toi, comme on a l'habitude de le faire entre jeunes. Et dans celui-là, en tout cas, t'expliques qu'il n'y a pas de honte à être soit pianiste, soit violoniste, soit peu importe, danseur, etc. Ça. Et qu'il faut croire en ses rêves. Comment ça devient l'idée de ce court-métrage-là?
Cette idée, elle me vient déjà parce que Tariq, il était dans un conservatoire et il a fait plein d'instruments. Et un jour, je vais chez lui, je suis avec sa famille, on mange et tout. Et moi, je ne savais pas qu'il faisait du piano. Et il va devant le piano, je lui dis « Ah ouais, chez toi, il y a un piano, qui fait du piano ?» Il me dit « C'est moi et tout. » Moi, j'ai écrit, il me blaguait. Il va bam, bam, bam. Je dis « Mais c'est dingue, parce que moi, dans mon entourage, personne ne fait du piano. » Il faut savoir qu'on aime le piano, en gros, on aime écouter la sonorité du piano, tu vois. Et je me dis, c'est vrai, on va faire un court-métrage autour d'un mec, d'un jeune de cité qui fait du piano. Ça m'est venu automatiquement. Et de là, lui, il a kiffé. Et il m'a dit, j'avoue, viens le faire, on n'a rien à perdre. Je lui ai dit, let's go. Et après, on a fait.
Court-métrage qui dure 15 minutes, qui est sur ta chaîne YouTube. Le dernier en date, il est sorti il y a quelques jours. C'est Les bavures policières. Ça aussi, sujet de société très très important. Dans celui-là, le message de fin, c'est « Marchons en mémoire de nos petits anges, obtenons justice sans se mettre en danger, car le feu brûle tout le monde, même le pyromane, c'est notre mécontentement et nos prières qu'on devrait multiplier par 10 et non le nombre de défunts. Faites attention à vous les petits frères, en mémoire à nos petits frères partis trop tôt. » Ça nous renvoie à Zied, Bouna, ça nous renvoie à Naël et ça nous renvoie à plein d'autres qui sont morts sous les coups, sous les balles des policiers. Pareil, comment elle te vient l'idée de ce court-métrage-là?
Moi, c'est des choses qui me touchent, moi. Le fait de voir des jeunes comme moi se faire tuer par la police, ça me touche énormément. Parce qu'en vrai, ça aurait pu être moi ou mon pote ou mon cousin. Et souvent, on dit que tous les policiers sont mauvais. Mais ils sont pas tous mauvais. Tu vois, si on veut vraiment être sérieux, ils sont pas tous mauvais. Comme nous, les jeunes de cité, on n'est pas tous mauvais. Tu vois. Et dans ce court-métrage, je voulais dire aux gens que déjà, lorsqu'une personne, elle se fait tuer par la police, ça sert à rien de tout brûler. Parce qu'en vrai, nous, pour nous, quand je te dis nous, je te parle dans les quartiers, on pense que le fait de mettre le feu, ça, on se fait entendre. C'est dingue de se dire qu'en faisant ça, on se fait entendre. Mais en faisant ça, on se fait entendre, mais de la mauvaise manière. Tu vois? Parce qu'on se dit qu'en faisant des démarches, ça va rien changer. Donc en vrai, faut tout brûler. Mais c'est pas comme ça qu'il faut penser. Tu vois? Et faut pas se dire que tous les policiers sont mauvais. Parce qu'il y a des policiers qui sont gentils. Je n'ai pas rencontré que des policiers mauvais dans ma vie. Il y a des policiers gentils, comme il y a des mauvais. Mais faut pas en faire une généralité. Et c'est ce que je voulais faire véhiculer dans ce court-métrage-là.
Qui lui est disponible depuis quelques jours sur YouTube. C'est dingue parce que pour ton âge, tu as vraiment une réflexion mature et profonde. J'ai dit pour ton âge, on n'a que 3 ans d'écart.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
les gens comprendront là où je veux en venir. Et est-ce que c'est... Tu parlais de... faut pas tout brûler. Faut se faire entendre autrement. Est-ce qu'on se fait pas entendre également en faisant ce que tu fais toi aujourd'hui, en faisant du cinéma, en faisant du théâtre, parce que tu as fait du théâtre aussi, on n'en a pas parlé, mais tu as fait du théâtre aussi, du cinéma, du théâtre, en faisant de la musique, en écrivant des livres, en faisant... La semaine prochaine, je reçois un professeur des écoles qui s'appelle le prof sur YouTube, qui est pareil, un prof de banlieue qui aujourd'hui cumule 100 000 abonnés sur Instagram et qui, pareil, fait véhiculer des messages. Est-ce que c'est pas comme ça que chacun d'entre nous peut faire passer ses messages et se faire entendre autrement que, comme tu le disais, par la violence ou les excès?
Si, c'est une bonne manière. Parce que, en soi, les réseaux, ça a une force de ouf. Tu vois, tu peux tomber sur une vidéo Ça peut te changer, ça peut changer ta vision des choses. Et comme tu l'as dit, je suis suivi par des gens. Donc, si je peux leur faire comprendre que ça, bah, en vrai, ça va mener à rien. Alors, mais cette personne dans sa tête, pour elle, ça va la mener à quelque chose, quoi qu'il arrive. Ah, c'est parfait pour moi.
Bah en tout cas, le message, il est passé aujourd'hui. Merci pour cette discussion. C'est passé super vite.
Merci.
C'était super inspirant, très profond. On a appris pas mal de choses. C'est quoi la suite pour Ousmane? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Bah, sortir des courts-métrages et pourquoi pas faire une apparition dans un film ou dans une série. Et voilà quoi.
Bah on te le souhaite en tout cas, tu es rempli de talent, donc ça va
Merci
forcément le
beaucoup.
faire à un moment ou à un autre. Et comme tu le disais, l'essentiel, c'est d'être patient pour arriver à tout ça. On va pas te libérer comme ça, on finit par un jeu. Alors, on pouvait pas te laisser partir comme ça. Alors, je vais te faire des débuts de phrases. Et l'idée, c'est que tu me complètes les phrases. Tu me les complètes soit avec un mot, soit en finissant la phrase comme tu veux. C'est pas forcément un mot précis. Est-ce que c'est bon pour toi?
Ok, c'est parfait.
Alors, être un homme aujourd'hui, c'est.
C'est être un homme aujourd'hui, c'est formidable.
Être un homme noir en France aujourd'hui, c'est.
Je dirais pas que c'est dur, mais c'est bien, hein, moi je suis fier, c'est bien d'être un homme noir.
Être acteur, c'est pas si.
Facile qu'on le croit.
Imiter Loulou et Awa, c'est bien, mais.
C'est bien, mais c'est bien, mais c'est dur.
Tu m'étonnes. Faire des TikTok, c'est bien, mais.
Mais ça peut être dangereux.
En dehors de moi, le plus drôle de TikTok, c'est.
Il y en a plusieurs.
Tu peux en citer deux, trois. Et on demandera pardon aux autres.
En vrai, il y a Attaching Boy. C'est une personne que j'ai rencontrée, c'est un bon gars. Après, c'est parce qu'ils sont dans mon registre, Attaching Boy et Mouloud.
Ok. Mariam, c'est. Ouais. Tu te doutais bien qu'on allait parler de cette fameuse Mariam à un moment donné. Je t'ai laissé te mettre à l'aise tout le long de l'interview. Genre, arrive à la fin. Faudra bien un moment qu'on parle de cette Mariam qui,
Mariam,
pour ceux
c'est
qui n'ont pas la ref et qui n'ont pas encore vu tes vidéos TikTok, mais qui le feront juste après la vidéo, c'est une meuf dont il parle dans toutes les vidéos. À chaque fois qu'il est dans une situation avec une meuf, c'est Mariam. Quand il est allongé dans son canapé au téléphone le soir, c'est Mariam. Quand il doit tromper quelqu'un, c'est Mariam. C'est qui cette Mariam?
Mariam, c'est une meuf.
Et
Ah,
j'aimerais
j'ai
dire à
triché.
Mariam que.
Que tu me fatigues.
La banlieue, c'est.
Incroyable.
J'aimerais dire aux jeunes issus de banlieue que.
Venons, on essaye de faire quelque chose
Le
de bien, de créer surtout.
meilleur conseil qu'on m'ait donné dans le cinéma, c'est.
Sois patient, mais travaille beaucoup.
Le film qui m'a le plus marqué cette année, c'est.
Le Comte de Monte-Cristo,
Ouais, il est incroyable.
pour le
Ouais,
coup.
vraiment. Merci Pierre Niney. Le plus surprenant quand on me reconnaît dans la rue, c'est.
C'est quoi, c'est pour le coup, le plus surprenant quand on connaît dans la rue, c'est je sais même pas. Carrément, je pourrais même pas te répondre. C'est cool, c'est génial, ça me fait plaisir. Je sais même pas quoi répondre.
Si je devais vous donner trois arguments pour que vous vous abonniez à mon TikTok, ce serait.
Si vous aimez rire et vous aimez les courts-métrages et que quoi et que vous voulez passer du bon temps, bah venez.
Si je devais utiliser trois mots pour décrire mon état d'esprit, pardon, je dirais.
Charbonneur. Je suis un charbonneur, je suis une personne déterminée. Charbonneur, déterminé et joyeux, quoi.
Mon interview du jour, elle était.
Superbe. Franchement, c'était un super moment, tu vois.
Bah merci en tout cas, c'est un super moment qu'on a partagé ensemble, plaisir partagé, passé vraiment un agréable temps. Comme je le disais, allez le suivre sur TikTok parce que ce qu'il fait c'est vraiment bien, c'est vraiment pour le coup vraiment vraiment très très drôle avec des messages sous-jacents à chacune de ses vidéos, c'est pas juste faire rire pour faire rire, on a besoin de rigoler dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Merci Ousmane encore une
merci
fois
à toi, franchement,
d'avoir été mon invité.
Merci de m'avoir invité, j'ai passé un super moment et voilà quoi.
Bah c'était un plaisir, on espère te réinviter une prochaine fois et cette fois-ci ce sera parce que tu auras fait un grand film réalisé ou acteur.
J'espère.
En tout cas, on te le souhaite. On va finir avec un petit message de paix. On voit tout ce qui se passe en tout cas dans le monde actuellement. Triste que les médias n'en prennent pas un peu plus possession. Mais voilà, je le disais déjà dans l'une de mes émissions, le rôle des journalistes, c'est d'informer, autant quand c'est chaud que quand c'est froid, autant à gauche qu'à droite, autant pour les opprimés que pour les oppresseurs. Donc voilà, faites le travail, on pense à tous les peuples endeuillés, à tous les peuples oppressés, à tous les peuples victimes de la barbarie d'autres peuples. On citera personne, vous savez de quoi on parle de manière globale. Donc voilà, on pense à tous ces peuples-là, que ce soit au Congo, en Palestine, que ce soit en Israël, que ce soit ailleurs dans le monde. Et merci en tout cas Ousmane de faire des choses aussi qui font rire, qui permettent un peu de sortir de cette anxiété-là et de voir autre chose. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Léonard qui était à la réalisation audio et à Jay qui était à la réalisation vidéo. Cette émission, bien évidemment, elle est disponible sur toutes les plateformes d'écoute légale de téléchargement de podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts et j'en passe. Et sur monparisfm.com et télécharger l'application Mon Paris FM pour nous écouter. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous et faites attention à vous.
Donc la morale tu vas la faire à d'autres. Là je suis pas bien.